France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Comme le jeu des 1000 euros fait étape aujourd'hui à La Haye-les-Roses, je signale une association citoyenne locale qui a pris le nom bien trouvé de Laïcité. Cette dernière s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire et de promotion, je cite, de la laïcité pour faire société. Autrement dit, elle organise des réunions publiques au service du débat démocratique et des échanges d'idées. Europe, questions climatiques, égalité hommes-femmes, tous les sujets sont abordés et débattus au cours de ces rencontres. Le site, c'est laïcité.org, mais alors laïcité avec l'orthographe qui épouse en grande partie celle de la commune La Haye-les-Roses. Nous ouvrons cette édition par une action de solidarité comme on les aime, avec Solange Gauthier qui mérite vraiment d'être citée ici. Et puis Jean-Louis Laville ouvrira une nouvelle chronique consacrée à l'économie sociale et solidaire pour mieux comprendre ce vaste ensemble touffu et parfois complexe.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Si je joue la carte de la dame de cœur, j'appelle Solange Gauthier. Bonjour Solange.
Bonjour.
La dame de cœur, c'est vous.
Je ne sais pas si je suis la dame de cœur. En tout cas, cette association porte au cœur, ça c'est sûr.
D'abord, elle vous concerne par une histoire intime. J'en dis deux mots parce que je ne veux pas appesantir notre dialogue, mais la disparition accidentelle de Juliette, votre fille unique, à 25 ans, qui était pâtissière, vous a poussé à agir. C'était pour oublier la douleur.
Oui, absolument, et surtout d'amener une image positive à cette douleur, en fait. Et comme Juliette était une fine pâtissière et qu'elle ne supportait pas le gaspillage alimentaire qu'elle confrontait tous les jours dans les pâtisseries où elle travaillait, en fait, j'ai passé ça au mixeur et je me suis dit, voilà, c'est une image positive, déjà pour lui rendre un hommage et pour lutter contre ce gaspillage alimentaire de toutes ces pâtisseries qui se donnent un mal fou à faire des très jolies choses et du coup que ça ne parte pas à la poubelle.
Ouais. Et alors, c'est quand même étonnant, Solange, parce que c'est pas la première chose à laquelle on pense, de proposer des pâtisseries. Alors là, vous allez nous expliquer comment vous pouvez acheminer ces pâtisseries et ces invendus vers des associations caritatives. Mais quand on pense à des personnes en grande difficulté, on pense pas tout de suite à la nécessité d'une pâtisserie, loin de là.
Oui, absolument. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans l'urgence alimentaire. Mais ce que nous disent les bénéficiaires, ils nous disent on est dans la rue, on nous impose tellement de choses, on nous impose le logement, on nous impose la nourriture. Et là, quand on va sur les maraudes et qu'on leur dit qu'est-ce qui vous ferait plaisir, et ils nous disent tous mais ça fait combien de temps qu'on nous a pas demandé ce qui nous ferait plaisir. Et c'est très émouvant. Et ils sont tellement heureux de ils prennent le temps, ils ont les yeux qui brillent et ça fait vraiment plaisir de les voir.
Et vous êtes parvenu à convaincre des pâtissiers d'excellence à donner cette partie d'invendu à votre association qui redistribue vers les associations caritatives. On va donner des exemples, parce qu'à Paris, c'est la Péniche du Cœur. Entre autres, c'est le centre d'hébergement d'urgence des Restos du Cœur, au Quai Saint-Bernard. Comment vous avez fait pour les convaincre?
Alors déjà, pour convaincre les pâtissiers, j'ai contacté le pâtissier qui est Carlos Marquez, qui est maintenant le parrain de l'association. Et donc, Juliette travaillait chez lui. Donc, on a eu une belle discussion, un bel échange. Et il m'a dit, OK, banco, je vais vous aider. Et après, c'est une personne qui a parlé de notre association, etc. Et c'est vraiment un réseau relationnel. Et c'est vrai que la chaîne du froid était le plus important, en fait, dans cette association. Bah, qu'il fallait vraiment respecter. Donc, en fait, on s'est équipé de matériel de bac isotherme, de glace, etc., pour ne pas garder les pâtisseries dans un délai d'un quart d'heure maximum.
Et je suis en train de comprendre que par la même occasion, il y a aussi un gros gâchis alimentaire du côté des invendus, des pâtissiers.
C'est énorme. En plus, quand on voit le temps qu'ils prennent, déjà, les pâtissiers se lèvent très tôt. Ils réalisent quand même des merveilles. Du coup, que ça parte à la poubelle, c'est quand même une claque pour eux. Donc, c'est énorme. Il y a 2,6 tonnes dans le métier de la bouche qui part à la poubelle chaque année. Donc, c'est juste honteux.
Alors, je parlais de la dame de cœur avec vous, Solange, parce que l'idée importante à laquelle on ne réfléchit pas ou à laquelle on ne pense pas, c'est pourquoi ces personnes démunies n'auraient pas droit à un peu de douceur, une douceur savoureuse et sucrée.
Exactement, parce que déjà la pâtisserie coûte cher. Mmh. Donc en fait, eux, ils vont chercher peut-être de l'urgence dans l'alimentation. Et effectivement, ils ont droit aussi à de la douceur qu'ils ne peuvent pas se permettre de s'acheter.
Mmh. Alors pour l'instant, 9 pâtissiers partenaires de l'association.
Oui, absolument.
Et combien de bénéficiaires? Il y a 5 structures sociales.
Il y a 5 structures, bon, on travaille énormément sur les maraudes avec les Restos du Cœur, on est en partenariat avec eux, donc ils nous préparent une table et du coup, voilà, quand le plat chaud est servi et quand le café-thé arrive, nous on a une pyramide en fait sur la table de gâteau. Donc ça déjà on travaille beaucoup avec eux, notamment aussi en annexe avec la péniche du cœur qui est au quai d'Austerlitz. Mmh. Les gens nous acclament quand on arrive. Et puis aussi, beaucoup d'associations comme Emmaüs Solidarité qui est à Ivry, où là, il y a beaucoup d'enfants et ils sont super contents. Mmh. Donc ça me réjouit et ça me donne du baume au cœur de les voir heureux et l'esprit assez gourmand, en fait.
Alors vous allez trouver, chers amis, les coordonnées, le lien avec entre autres la page Facebook de Pâtisserie Solidaire dans le siège et à Charenton-le-Pont. Et au nom de la petite équipe des carnets de campagne, je vais vous faire un aveu très simple, Solange, on vous aime beaucoup.
Mmh. Moi aussi je vous aime, je vous écoute souvent.
Merci, à très vite.
Bonne journée.
France Inter, carnet de campagne.
Eux aussi, ou elles aussi, je pense qu'on a autant de femmes bénévoles que d'hommes bénévoles, ont bien trouvé le nom de leur collectif à Saint-Maur-des-Fossés, le TRUC. Entendez, territoire récréatif d'utilité sociale. Donc ça donne le TRUC. Des explications s'imposent quand même, en partie communiquées par Nicolas, correspondant des carnets. Le fameux TRUC est né en 2018 sous la volonté d'habitants de Saint-Maur, soucieux d'entrer dans le large mouvement des villes et territoires en transition. Alors, les trois valeurs qui animent le collectif sont l'environnement, comment agir localement au profit d'une décroissance de la consommation énergétique, l'alimentation, comment relocaliser la production alimentaire dans une logique de lien et de solidarité avec les producteurs. Et pour ce faire, le TRUC s'est associé à l'épicerie alternative locale, l'Altermarché, qui se présente comme un traiteur gourmand et éco-citoyen, altermarché.fr pour son adresse. Et puis donc, troisième valeur, la convivialité, afin d'agir dans une logique d'échange et de transmission des savoirs et des moyens. Il s'agit donc d'apprendre et de faire grâce aux autres et avec les autres. Les finalités du TRUC sont très louables, elles attendent votre adhésion à l'adresse trucdesaintmaur.wordpress.com. Voilà qui est dit. Jean-Louis La Ville, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Nouvelle chronique solidaire avec vous. Je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire d'économie sociale au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, vous intervenez très régulièrement. Le dernier en date, Réinventer l'association, avec une postface de Michel Rio-Sarcès et chez Desclés de Brouwer. Aujourd'hui, donc après l'économie sociale, l'économie solidaire, on en arrive enfin. C'est pas le must, pardon pour ce mauvais français, mais presque de l'économie sociale et solidaire.
Voilà, ben c'est pas dénué d'une certaine logique. Mmh. Et qu'est-ce que peut être l'économie sociale et solidaire dans le monde, dans l'économie de demain? Je pense qu'il y a un peu deux façons d'appréhender l'économie sociale et solidaire. La première façon de l'appréhender, c'est de dire, voilà, il faut changer d'échelle. C'est-à-dire, il faut augmenter la taille, augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le volume des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je crois qu'il faut être assez réservé par rapport à ce premier scénario, parce qu'on voit bien que c'est un scénario qui a hanté l'économie sociale pendant plus d'un siècle et qui n'a jamais marché. Est-ce que finalement, en voulant se faire aussi grosse que le bœuf capitaliste, est-ce que l'économie sociale et solidaire finalement ne perd pas aussi, sinon son âme, du moins son identité?
Question récurrente, question que l'on soumet régulièrement, aujourd'hui via les nouvelles fonctions au sein du ministère de la Transition écologique, avec Christophe Ittier, on parle à nouveau de changement d'échelle.
Et moi, je pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas raisonner un peu autrement, se décaler pour dire... Ce qu'il faut, c'est ne pas changer d'échelle, mais changer l'échelle. C'est-à-dire que, finalement, pourquoi l'économie sociale et solidaire peut être pertinente aujourd'hui et demain? Parce qu'elle nous permet d'expérimenter des actions concrètes qui vont dans le sens d'une transition écologique et solidaire. Donc, elles vont nous aider si elles nous aident à changer d'échelle, à changer de modèle. Et à ce moment-là, ça a des implications différentes. C'est-à-dire que Je crois que d'abord, il ne faut pas hiérarchiser selon les tailles. Je rappellerai par exemple les chiffres qui sont cités souvent par le collectif des associations citoyennes qui fait un gros travail auprès des associations. 9 associations sur 10 n'ont pas de salariés, ce ne sont que des bénévoles. Est-ce que pour autant elles ne sont pas importantes? Est-ce que sur certains territoires, elles n'aident pas quand même à ce que ces territoires puissent être encore vivants? Il faut aussi arriver à voir qu'il y a des activités qui ont du sens et qui n'ont pas forcément une taille extraordinaire, mais qui peuvent aussi se mailler les unes aux autres. C'est le gros exemple, par exemple, des coopératives de solidarité sociale en Italie. Elles ont refusé d'augmenter leur taille et elles ont adopté ce qu'elles appellent le modèle du fraisier, c'est-à-dire des boutures qui font que on multiplie les expériences sur un territoire, on relie ces expériences pour qu'elles aient des fonctions communes et à ce moment-là, on a une autre façon de s'adresser aux gens qui permet de garder des liens de proximité.
Donc on duplique le bon voilà, principe. Mais Jean-Louis Laville, on change malgré tout d'échelle si on a une vision globale.
On change d'échelle, mais on change l'échelle aussi, puisqu'on n'est plus orienté sur uniquement la volonté de taille, mais on est aussi orienté sur cette volonté de garder un lien avec les acteurs de cette expérience économique qui a aussi une dimension politique.
Alors, où est l'écueil? À quel moment on risque de passer d'une duplication, d'une démultiplication, tout en gardant un esprit local à justement un intérêt plus général qui devient un intérêt économique?
Je pense qu'il faut se défier des méthodologies qui sont standardisatrices et qui appellent l'uniformisation. Je crois que si l'économie sociale et solidaire peut participer à la transition, c'est justement en gardant en son sein une diversité. On pourrait dire que nous avons besoin d'une socio- et d'une éco-diversité tout autant que d'une biodiversité si nous voulons que la société soit respirable et que nous y soyons bien surtout. Et là, je crois que on voit au niveau de chacune des expériences, mais on voit aussi à un niveau plus global de nouvelles façons d'agir et de penser. Je prendrai les exemples des constitutions, ça paraît lointain et pourtant je pense que ça nous concerne, des constitutions de 2008 en Bolivie, en Équateur. Elles ont renoncé à l'idée que l'ensemble du pays devrait être mobilisé autour de la croissance maximale. Elles ont dit non, on voit bien que ce modèle productiviste, il crée de plus en plus de problèmes plus qu'il n'apporte de solutions. Donc elles ont proposé un nouvel objectif collectif qui est ce qu'ils appellent le buen vivir, le bien vivre pour toutes et pour toutes. Et à partir de ce moment-là, ce qui est exprimé dans ces constitutions avec une certaine force, même si évidemment sur le terrain c'est compliqué, c'est le fait que pour qu'il y ait ce bien-vivre pour tous et tous, il faut qu'il y ait une économie plurielle. C'est-à-dire, il faut que cette économie sociale et solidaire soit de plein droit dans l'économie de demain et qu'elle montre qu'il y a en son sein une diversité. C'est par exemple tout le mouvement indigène et le mouvement paysan qui sont très forts dans ces pays-là et qui proposent leurs propres solutions à partir d'un ancrage culturel très fort.
Voilà pour cet exemple parmi d'autres. Je vous renvoie aux notes bibliographiques de Jean-Louis Laville, si vous voulez davantage entrer dans le sujet et avoir de bonnes lectures saines. Merci Jean-Louis.
Merci.
Demain, rendez-vous toujours dans le Val-de-Marne avec Rejouer, association qui collecte et rénove des jouets avec des personnes en insertion. Sa Vitry-sur-Seine, 45 salariés. Puis on parlera aussi de la tracterie, le café-atelier de Vitry-sur-Seine.